Comme l'a dit le père Augustin, Antoine d'Augustin, c'est de l'espérance que je voudrais vous parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'espérance, il s'agit donc de l'espérance de la vie éternelle. Puisqu'il s'agit de la vie éternelle, je devrais vous parler du ciel et de l'enfer. Je devrais aussi évoquer la grâce de l'année sainte. Et puisqu'il y a une grâce d'année sainte, donc il y a une grâce de miséricorde. Et le mot miséricorde veut dire indulgence. Évoquer avec vous le bonheur de la confession, donc de la réparation par conséquent, et peut-être aussi de la sainteté du mystère de la substitution. Nous voilà donc partis pour un petit périple. L'espérance, frères et sœurs, c'est une des trois vertus, théologales. Vous savez bien qu'il y a la foi, vous savez bien qu'il y a la charité, mais il y a aussi l'espérance. Et qu'est-ce que c'est que l'espérance? C'est de désirer, et d'attendre de Dieu la vie éternelle, de la mériter autant que possible avec la grâce de Dieu, et de persévérer jusqu'à la fin de notre vie. Vous savez, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. L'aspiration au bonheur que Dieu donne est avec lui. Et la vertu d'espérance purifie nos désirs. Est-ce qu'elle est comparable à l'espoir et à l'optimisme? Non, certainement pas un optimisme. L'espérance est un moyen surnaturel, une grâce que Dieu nous donne. Elle ne se limite pas à l'intramondain, à ce qui est de l'ordre de la vie terrestre. C'est plus fort que l'espoir. On s'appuie sur des promesses que Dieu nous a faites. Il fera disparaître la mort pour toujours. Il l'a dit et il le fera. Ces paroles de saint Paul, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim. En tout cela, nous sommes de grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. L'espérance, la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ, Jésus notre Seigneur. Et c'est précisément le thème, l'étendard de notre année jubilaire, année de la rédemption, l'espérance ne déçoit pas. Donc l'espérance oriente, indique une direction, un but pour le croyant. Saint Paul nous dit aussi, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Un chrétien doit déborder d'espérance contre vents et marées. Pas de sinistrose, Dieu est plus fort. Et l'espérance aura comme conséquence de rendre notre foi joyeuse, notre charité enthousiaste et imaginative. Imaginative, comment ça, imaginative? Vous saurez trouver le geste de l'amitié, vous ne serez pas engoncé dans vos tristesses et vos soucis. Vous aurez le regard fraternel parce que vous saurez qu'il ne faut pas réduire quelqu'un à ce qu'il montre de lui-même, mais à le voir tel que Dieu le voit ou la voit. Vous aurez une écoute sincère parce que vous saurez que Dieu parle à travers votre frère. Et vous aurez aussi un service de l'autre gratuit. Vous dépenserez parce que vous saurez que ça portera des fruits, que rien n'est perdu. Vous saurez donc dans les voiles du Saint-Esprit. Vous serez agile comme l'Esprit Saint. L'Esprit qui était celui de Jésus. Vous saurez que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, peut tourner au cauchemar ou bien devenir une semence de vie pour ceux qui reçoivent votre geste, ceux qui reçoivent votre regard, ceux qui vous écoutent et ceux à qui vous rendez service. Saint Augustin dit, et il est là avec son grand cœur dans les mains, quel que soit le genre de vie, on ne peut pas vivre sans ces trois inclinations de l'âme, croire, espérer et aimer. Et l'espérance est essentielle. Elle ne cède pas devant les difficultés. Lazare était mort, il sentait mauvais depuis 3 jours. Crois-tu qu'il puisse revivre ? Donc l'espérance est fondée sur la foi, elle s'active par la charité, elle est une énergie qui ne s'épuise pas. Donc notre jubilé, c'est ce que dit le pape François, il nous dit « l'espérance ne déçoit pas ». Alors cette espérance dont je vous parle brièvement, quel est son objectif? Nous le disons dans le credo, je crois en la vie éternelle. Pilier fondamental de la foi chrétienne. Elle nous fait donc désirer comme bonheur, quoi donc, la vie éternelle. Quand on n'a pas l'espérance, les blessures qui nous sont infligées et dont on s'afflige souvent soi-même, pousse au découragement. Mais par l'espérance, devant la certitude que l'histoire de l'humanité, la vôtre, celle de chacun, ne se dirige pas vers une impasse, un abîme obscur, elle s'oriente vers la rencontre, une rencontre avec le Seigneur de gloire. Espérance du retour du Christ, espérance de la vie éternelle. Mais qui dit vie éternelle, frères et sœurs, dira aussi paraître devant Dieu. Or Dieu est amour, il y aura donc un jugement. Le jugement de Dieu. Tant à la fin de notre existence, donc jugement personnel, qu'à la fin des temps, jugement universel. S'il y a donc une vie éternelle et un jugement, il y a donc un paradis et il y a donc la possibilité, dans une liberté qui est la nôtre, de ne pas adorer le Seigneur, parce que nous serons et nous risquons d'être prisonniers des égoïsmes ou des influences démoniaques. Il y a donc l'enfer. Le paradis, vous savez très bien, c'est le ciel et le purgatoire. Pourquoi le purgatoire? Parce que le mal commis ne pourra pas rester caché. Le mal commis ne pourra pas rester caché. Tout sera connu au grand jour. Et il n'y aura rien qui échappera à la lumière de l'amour du Seigneur, éclairé et mis pour ce qu'il en est à la face du monde. Or, rien de ce qui est pécamineux ne peut entrer au ciel sans avoir été lavé, purifié, sanctifié. Pour permettre le passage vers le Seigneur, notre entrée dans la demeure éternelle, dans l'amour définitif de Dieu, il y aura une purification. Si cela est nécessaire, ce sera donc le purgatoire. Nécessité donc pour les âmes d'entrer lavé dans le sang de l'agneau, pardonné quant au péché. Alors, s'il y a une année de la rédemption, c'est donc une année de la miséricorde, une année où Dieu fait grâce. Et les grâces du Seigneur concernent donc précisément cette ouverture des richesses de la communion des saints, des richesses du sang versé du Seigneur pour nous donner le pardon. Un pardon qui ne concerne pas simplement celui que vous recevez en allant vous confesser, mais comme le dit très bien les textes des conciles, des conséquences du péché. Les péchés que vous commettez vous sont pardonnés devant Dieu dans le sacrement. Mais il y a une indulgence qui est offerte quant aux conséquences de vos péchés. Votre faute devant Dieu a été pardonnée, mais le mal que vous avez commis continue de galoper. Et ce mal qui continue de galoper, ce mal qui continue à faire du mal, l'onde de choc des péchés, eh bien c'est cela que les indulgences sont censées offrir en miséricorde. L'indulgence est donc remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés déjà effacés. Votre faute est pardonnée, mais avec certaines conditions, vous pouvez recevoir la remise partielle ou totale. Donc les peines du purgatoire, et on prie précisément pour les âmes du purgatoire, et on prie pour qu'elles puissent être accueillies dans la grâce et la miséricorde. Le purgatoire maintenant en lui-même, qu'est-ce que c'est ? Une occasion de purifier les attaches mauvaises du pécheur. Dans le purgatoire, il y a deux peines qui nous sont données. Une peine du sens, une peine des sens, une souffrance sensible. Comme dit l'Écriture, comme un ver qui ne meurt pas et qui ronge, comme un feu qui ne s'éteint pas et qui brûle. Voici une des tristesses du purgatoire. Puis, le purgatoire, c'est aussi une privation de la vue de Dieu. D'ailleurs, on dit pour les défunts, donnez-leur le repos éternel, que la lumière éternelle les éclaire, que ta présence les console. Peine des sens et peine de la vision de Dieu, peine du dâme. Les pécheurs qui sont au purgatoire ne peuvent plus rien pour eux, et c'est précisément nous qui pouvons, par des actes méritants, nous pouvons contribuer au mystère de la rédemption et de la miséricorde à leur intention. Je voudrais vous dire quelques points sur les indulgences, si vous le permettez. Si le péché a des conséquences au-delà de ce que nous pensons, Dieu distribue ses richesses en abondance. Sa miséricorde n'a pas de limite. Par conséquent, se laisser réconcilier avec le Seigneur, c'est travailler au salut de nos frères. Ainsi, l'Église va distribuer pendant l'année sainte les richesses de ce trésor, les mérites des saints, les grâces précisément de la croix du Seigneur, auxquels les saints ont communié de façon excellente. Il n'y a plus comme autrefois une comptabilité des indulgences, on peut en obtenir à tout moment, parce qu'on dit « la charité couvre une multitude de péchés ». Dieu distribue sa miséricorde et d'Église puisent dans ce trésor de la miséricorde pour en faire bénéficier largement. Alors, il y a une discipline quant aux indulgences. Vous savez que le mot indulgence rime avec miséricorde. Vous avez tenu de pratiquer des exercices de communion avec le Seigneur, en particulier de prière, d'exécuter une œuvre prescrite de charité, une confession sacramentelle, une communion et aussi l'intention de prière aux intentions du Saint-Père. Les indulgences ne sont applicables qu'aux âmes du purgatoire. Il n'y a pas d'indulgence attachée à l'Eucharistie ou à d'autres sacrements, parce que de toute façon, il vous apporte grâce et salut. C'est simplement les indulgences, une participation aux richesses de la communion des saints. Profitez-en, frères et sœurs, pour vous élever vers Dieu, parce que de vivre cet esprit de l'année jubilaire, ça fait grandir la charité. En ce qui concerne maintenant l'indulgence, elle n'est applicable qu'à vous-même. Elle ne peut pas être applicable à des personnes de votre entourage, car chacun devra être responsable devant Dieu de ses actes. Par contre, vous pouvez l'appliquer aux défunts pour les âmes du purgatoire, comme je vous le disais, et vous avez le sanctuaire de Montlignon qui s'applique largement à cette prière pour les âmes du purgatoire. Le sacrement de la pénitence, je voudrais l'évoquer dans cette sainte maison. Vous savez comment le petit Louis Coll, qui est apparu à cet autel en avril, ou en la fête de Saint-Louis, il a dit à Don Bosco, qui célébrait la messe à cet autel, « Ici, c'est la grange des miséricordes, c'est la grange des indulgences. » Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Cette indulgence, cette miséricorde, Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit broyé. Il ne repousse pas le cœur brisé et broyé. Voilà, frères et sœurs, vous êtes dans un lieu très particulier où finalement, ô Marie, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Le cœur immaculé de Marie, c'est précisément ce cœur indulgent qui intercède pour nous auprès de son Fils. Et ne l'oubliez donc pas, frères et sœurs, péché véniel ou péché mortel, ils affaiblissent le corps de l'Église. Mais si l'un d'entre nous s'élève, toute l'Église s'élève et nous sommes invités à participer à la sanctification de nos frères parce que j'appelle une cotisation, un investissement physique par des sacrifices, par la prière, par des pénitences. Mais tout cela, ce n'est pas du dolorisme. C'est tout simplement que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il me fait et qu'il m'a fait. Ne l'oubliez pas, frères et sœurs, quand vous vous confessez, et c'est en cela que le sacrement, la pénitence, il vous apporte non seulement une paix par le pardon que vous entendez, mais il crée en vous une force nouvelle pour ne pas recommencer. Et cette force nouvelle pour ne pas recommencer, c'est aussi une force pour vous décider d'aimer et de choisir d'aimer par la voie de l'imitation de Jésus-Christ en offrant ces petits sacrifices au Seigneur. À ce sujet, je voudrais donc parler de ceci. le pardon. Donc vous avez bien compris, les indulgences vous donnent un pardon quant aux effets résiduels du péché. Les effets résiduels du péché dans les générations, dans les personnes que vous ne verrez plus, sont éliminés par l'indulgence, mais toujours par la grâce du Christ, qui est notre indulgence. Nous avons une indulgence, c'est le Seigneur. Regardez le regard qu'il a posé sur les pécheurs, sur la Samaritaine, le regard qu'il a posé sur Saint-Pierre, et Saint-Pierre pleura amèrement. Mais il se fit crucifier, selon la tradition, la tête en bas. Ce fut sa pénitence, ce fut son humilité, ce fut sa participation. Eh bien, nous aussi, nous devons avoir ce sens de la réparation. Pardonner ne change pas le passé, ne peut modifier ce qui a eu lieu dans le passé. Mais le pardon reçu peut permettre de changer l'avenir et de vivre différemment, sans rancune, sans ressentiment, sans vengeance, avec une charité accrue qui m'est créée par la grâce que j'ai reçue. Que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ? Il m'a pardonné, il m'a aimé alors que j'étais incapable de l'aimer. C'est cette énergie que vous devez souhaiter posséder dans votre cœur pendant l'année jubilaire. L'avenir est éclairé précisément par ce pardon. Les yeux sont encore embués de larmes, mais la joie de réparer, la joie de rendre, de participer avec le Seigneur à la vie des autres. On n'a pas beaucoup parlé dans l'histoire des effets résiduels du péché, mais ils sont bien à notre charge, et c'est le purgatoire. Mais quelle joie que cette année jubilaire où nous pouvons, si nous faisons dans cette basilique le petit chemin qui nous est proposé, si nous nous confessons, nous communions et nous recevons la grâce de prier aux intentions du pape, nous bénéficierons, nous distribuerons des bénédictions aux âmes du purgatoire et nous en porterons beaucoup mieux nous-mêmes, nous dilaterons notre charité. Alors la réparation. Dans l'Ancien Testament, la réparation, elle se vit précisément dans les années jubilaires où on rend la liberté aux esclaves, on remet les dettes. C'est toujours le dédommagement pour le mal commis. Mais là, dans l'Ancien Testament, on était dans la loi du talion, un œil contre un œil. Un bien contre un bien. Dans le Nouveau Testament, la réparation, ce n'est plus le cadre donnant-donnant. La démarche spirituelle, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Aimez vos ennemis, après la joue droite, tu tends la joue gauche. Avec le péché originel, en effet, on sait que l'irréparable a été commis. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nos premiers parents ont été renvoyés du paradis. Mais une note d'espérance a surgi tout de suite. Tout n'était pas perdu. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Tout n'est pas perdu. Promesse et espérance. Victoire de la grâce et de la miséricorde, de l'amour, sur la violence du péché, de la mort et du démon et des anges mauvais. Or Jésus est bienvenu, et c'est pour ça que nous fêtons l'année de la rédemption. S'il vient, c'est pour tenir ses promesses. Dieu tient ses promesses. Emmanuel, Dieu avec nous, il est venu pour guérir, c'est-à-dire pour nous racheter. L'impensable réalité que Jésus apporte à notre humanité, réparer l'irréparable par la rédemption. Le mystère pascal que nous célébrerons à Pâques. Il a été immolé par nos fautes, mais il est ressuscité pour notre justification. Par son sacrifice, Jésus a vraiment été victime. Victime pour qui ? Pour chacun de nous, pour toi et pour moi. Et donc, de ce fait, la miséricorde et l'amour gouvernent toute la foi chrétienne. La surabondance de la rédemption du Christ fait remettre toutes les fautes. Mais nous pouvons collaborer, nous aussi, à cet éclat de la grâce en réparant, réparer le tort causé à nos frères, l'amour dont ils ont, le manque d'amour qu'ils ont eu, les blessures que nous avons, leur avons infligées, nous pouvons le réparer. Et ce désir de réparation, on ne pourra peut-être pas les rejoindre pour leur demander pardon, mais on peut donner libre cours à une générosité qui s'investit dans une charité fraternelle en union avec les saints du ciel. C'est pour cela que vous pouvez, pas uniquement pendant l'année sainte, mais spécialement pendant l'année sainte, puiser dans le trésor immense des mérites du Christ, chaque jour, obtenir des indulgences. Une indulgence par jour, une indulgence plénière, une indulgence partielle, selon les directives de l'Église. Et puis, il y a ce qu'on appelle le mystère de la substitution. C'est un peu, et c'est même, un des charismes de la congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Montmartre dans leur constitution. Seigneur, je veux bien participer à ta passion et je m'offre à toi selon ta volonté et comme tu le voudras. Compenser, réparer, tout cela, les chrétiens sont le cartilage de l'humanité. Vous devez arriver, frères et sœurs, à ne pas voir simplement votre propre confort, votre désir, mais vous devez penser, en particulier quand la Vierge apparaît et qu'elle dit « les bras de mon fils sont lourds », ça signifie qu'il faut consoler le Seigneur pour que son pardon atteigne les cœurs et qu'ils se convertissent. Voilà, frères et sœurs, l'espérance que nous avons. Nous avons l'espérance d'aller au ciel et nous pouvons obtenir le ciel pour les âmes du purgatoire, pour nous-mêmes, mais toujours par le seul mouvement de la charité qui couvre une multitude de péchés. Donc, ne vous laissez pas aller à la culpabilité ni à la tristesse, mais donnez libre cours à votre générosité qui se fait humble dans le secret, ton Père te le revaudra. Et le secret dont il est question, c'est une union intime avec le Christ qui, sans le dire, sans nous le manifester, a donné la vie sans même en réclamer une consolation. La substitution, c'est d'être capable d'aimer sans demander de reconnaissance en retour. C'est une solitude, mais qui est une communion profonde à la vie de Jésus, à Gethsémani, et qui apporte ce sacerdoce baptismal, ce sacerdoce qui est propre aux chrétiens, d'être le levain dans la pâte, qui par la prière en particulier, par le jeûne et par l'aumône, domestique, dompte les puissances égoïstes de la chair. La fois prochaine, je vous parlerai certainement des mouvements de l'âme, pour que vous puissiez cultiver ces mouvements de l'âme qui vous apporteront cette joie profonde de l'espérance. Merci de m'avoir écouté.
Si vous avez des questions, le père Jean-Pascal Duloisy sera ravi de pouvoir y répondre. Nous allons juste chercher un micro, donc accordez-nous 15 secondes. Soyez indulgents. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ? C'est vrai que la conférence du Père Duloisy est extrêmement claire. Donc, s'il n'y a pas de questions, amen de gloire.
J'avais une toute petite question. Lorsqu'on pratique la démarche d'indulgence et qu'on obtient l'indulgence plénière, est-ce que c'est tous nos péchés, vraiment tous les péchés de notre vie antérieure qui sont effacés, ou alors c'est certains péchés et qu'il faille refaire
Alors je vais vous expliquer très simplement. Ça, c'est pardonné quand vous allez vous confesser. Vous pouvez faire effectivement une confession générale. Ça, vous êtes pardonné de vos fautes, et si vous avez peur d'en oublier, vous dites même que vous regrettez les fautes dont vous ne vous souvenez pas. Mais les indulgences, je vous répète, l'indulgence, elle pardonne. Voilà, je vous dirai exactement. L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés déjà effacés. C'est les adgios, comme on dirait à la banque. Regardez, monsieur Adolf Hitler, il a fait des péchés. Mais aujourd'hui, il y a encore des crimes qui sont commis à cause de son nom, l'onde de choc de ses péchés. Et le pape en parle très bien dans la bulle qu'il a rédigée à l'occasion de l'année jubilaire. Je crois que vous avez choisi une expression très soignée parce que cette discipline des indulgences